Bienvenue à chacun. Ça va, vous allez bien? Oui? Ça va. J'espère qu'on n'a pas été pris dans la foule pour aller acheter 20 kilos de pâtes, 5 kilos de sucre. Il paraît qu'il y a une razzia sur le Nutella. Nous, on a besoin de faire le plein de Jésus. On a besoin de se ruer sur Jésus. Et vous savez quoi? Il y aura en suffisance. Il y aura en suffisance pour toi. Il y a une place pour toi dans cette foule. Jésus est suffisamment grand pour que tu aies la place dont tu as besoin, que tu aies toute la place. C'est, niveau humain, c'est difficile de comprendre cela. Et pourtant, dans son cœur, hein, Jésus dit, il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. C'est l'idée. Il y a toute la place qu'il faut dans le cœur de Dieu pour toi. Tu peux aller faire le plein. Tu dois aller faire le plein. On doit aller le toucher. Encore et encore. Quelqu'un recevait, on l'a dit déjà ce matin, soyez pas découragés, soyez pas tristes. Actualité. Pendant le culte, je me disais, dire que nos frères et sœurs en Ukraine célèbrent aussi le culte. Comment doivent-ils vivre le culte? Mais quelque part de la même manière que nous. On est dans la même situation. Le cœur de Jésus est disponible. Notre but, c'est de faire le plein de Jésus. Et on amorce une... Même si c'est le but de l'Église, bien sûr. Mais on veut acter les choses. On veut, d'une manière nouvelle, aller toucher Jésus. C'est ça dont nous avons besoin. En tant que nation, en tant qu'église, en tant que couple, en tant qu'individu. Un contact. Vraiment être touché par Jésus. Il y a des gens qui ont touché Jésus et qui ont été comme électrocutés, guéris dans leur cœur. Le passage de Jésus avait changé. Et ce texte de Galates 2 qu'on a repris, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est pas jeu de la poésie, ce n'est pas un chant de Samuel Olivier. C'est la réalité que je ne peux pas enfouir. Il est là en moi. Et plus de lui. On va aller plus loin. Et aujourd'hui, je n'aurai pas beaucoup. Au niveau du contenu, mais au niveau du fond, je crois que le Seigneur veut... de réaménager nos vies. Et donc, je vais partager ça avec vous. Je vais reprendre cette citation de Jonathan Edwards. Il n'y a pas d'amour plus grand ni plus merveilleux que celui qui est dans le cœur du Christ. Il n'y a pas d'amour plus intense. Il n'y a pas de beauté plus grande. Il n'y a pas de plus grande tendresse plus... que ce qu'il y a dans le cœur de Jésus. Il se fait une joie. Il se fait une joie d'user de miséricorde. Il se fait une joie de t'aimer. C'est pas une besogne, c'est pas... Pff, oh, ils sont déjà debout. Il se fait une joie de t'aimer. Il est prêt à prendre en pitié ceux qui souffrent, ceux qui éprouvent des chagrins. Il se plaît à faire le bonheur de ses créatures. Il se plaît à ton bonheur. Et on a besoin de réformer notre vision de Dieu. Comme si Dieu pouvait être lassé, fatigué. Il y a un stock. Hein, un stock de papier WC. Un stock d'amour que je pourrais épuiser. Ça, c'est une vision humaine. Mais la tendresse de Dieu, la passion de Dieu, son secours est inépuisable. L'amour et la grâce que Christ a manifesté surpassent tout ce qu'il y a dans le monde. De la même manière que la lumière du soleil surpasse celle d'une bougie. Les parents sont souvent remplis de bonté pour leurs enfants. Mais ça ne peut pas se comparer à ce que Jésus ressent pour toi, pour nous. Ce qui doit donc nous faire dévorer, ce qui doit motiver notre vie spirituelle, notre vie tout court, c'est le cœur de Jésus. Et dans ce sens, on n'est pas en train de suivre une religion, mais une vraie relation, une vraie passion avec Dieu, mais c'est d'abord que Dieu éprouve pour nous. On est rentré dans cette relation-là. Et c'est ça qui doit nous dévorer, quel que soit notre état d'âme, les circonstances qu'on vit, bombardement ou pas bombardement. Le cœur du Christ est épris pour toi, fou de toi. Et c'est ça qui doit nous mettre en mouvement. L'expression même de son cœur. Il y a une telle beauté, une telle tendresse, une telle gentillesse, un tel amour qu'on ne peut pas mesurer. Et au fin fond de l'éternité, je crois qu'on va se croiser après 45 milliards d'années. Et je vais voir mon vieux Vincent qui va me dire « Mais tu nous en as dit tellement peu !» Et je commence à découvrir l'immensité de la compassion de Dieu. C'est un texte de Philippiens. Hein, je ne suis pas comme Jérôme qui oublie les textes. Hein. Jusqu'au fin fond de l'éternité. Si, je commence à oublier. Hein. Il va démontrer sa grâce. Il veut la montrer jusqu'à la fin des siècles, vous voyez. Ça, c'est le cœur. C'est pourquoi l'appel ici, l'appel, c'est la passion pour Jésus. Alors, on va changer le nom de l'Église, on va changer. La passion pour Jésus. Les vieux mariés là-bas. Passion pour Jésus. Martine, quand tu rentres à la maison, dis à Francie, ça va changer maintenant ici. Tu vas changer, mon ami. Passion pour Jésus. Tu es fait pour ça. Hier, à travers un chant, le Seigneur réveillait cette pensée. N'oubliez pas que j'ai un rêve pour vous. N'oubliez pas ça. Que j'ai un rêve pour vous. Et ce n'est pas Hollywood. Hein. Vous savez que Dieu a un rêve pour chacun d'entre nous. Nous emmener vers le projet qu'il avait en nous créant. Et ce projet s'accomplit avec Jésus. Notre passion pour lui. On comprend que son projet, c'est de nous rendre comme son fils. Aussi beau, aussi aimant, aussi parfait. Il ne pouvait pas vouloir moins. Il ne pouvait pas avec toi dire « Bon, je vais le rendre comme l'archange Michel. » Ça, c'est trop bas, ça. C'est trop, trop bas. Même s'il est extraordinaire, son projet, c'est de faire de toi quelqu'un qui va être vraiment à la ressemblance. Il faut qu'à la fin de notre vie, on se dise « Mais attends, c'est qui encore, lui ? » On aurait dit « Jésus !» Et plus on va s'approcher de nous, plus on devrait dire, attends, c'était ça dans le jardin d'Éden. Ils l'ont fait à l'image. Quand les animaux circulaient, ils disaient, mais c'est qui ces deux-là? On dirait Dieu. On dirait Jésus. On dirait Jésus. Ça, c'est le dessin. On voit ça partout dans l'Écriture. La ressemblance, le plan de Dieu. C'est de nous rendre comme lui. Donc, ce matin, on va avancer un peu dans cette contemplation-transformation. Ça, c'est, on va aller plus loin dans ce programme que Dieu nous fixe pour nos vies. Nous rendre comme Jésus. La première chose que je voudrais souligner avec vous, quand vous regardez les évangiles, quand vous regardez Jésus, c'est la masse de relations qu'il avait. Je voudrais parler de ça avec vous aujourd'hui. Un type de relation. La masse de relations. Le paquet de gens qu'il a rencontrés. On voit aussi des textes où on voit que Jésus a une relation particulière en lui-même. Il y a des textes qui parlent de ce qui se passe en lui-même. Mais aussi, il y a un paquet de textes qui nous parlent de la relation que Jésus avait avec le Père. Que Jésus avait avec son Père. Et ce que je voudrais ce matin, c'est qu'on puisse synchroniser nos agendas. Simplement ça. Hein ? On fait beaucoup cela. Ceux qui ont des ordinateurs, des tablettes, des téléphones, il faut synchroniser. Et je voudrais qu'on puisse synchroniser nos agendas à celui de Jésus. Il voudrait vraiment ça. Et on va prendre un texte aujourd'hui. On va s'arrêter à un élément de ces relations. Juste deux versets. Et je voudrais les commenter avec vous. Dans l'évangile de Luc, chapitre 5, verset 15. On parlait de plus en plus de lui et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris par lui de leur maladie. Je relis ce verset. On parlait de plus en plus de lui et les gens venaient en foule pour l'entendre, pour être guéris par lui de leur maladie. Mais lui, il se retirait dans les déserts et priait. Je voudrais juste m'arrêter sur ces deux versets et voir un peu leur résonance dans les évangiles. On venait en foule, mais lui se retirait dans les déserts et il priait. Je sens vraiment comme... Ce que je vais dire va être simple, mais tellement l'impression qu'il y a une telle pression, un tel défi pour nous. Parce que peut-être on a déjà entendu ça et pourtant il va falloir synchroniser, sinon on perd son temps. Les gens venaient en masse, mais lui se retirait dans les déserts et il priait. Si tu regardes le contexte, tu vois Jésus en pleine activité. Des guérisons en tout genre, il venait de relever le paralytique, il venait de guérir le lépreux, il venait d'appeler l'équipe des 12, il venait d'avoir un moment chaud avec les pharisiens, Jésus en pleine activité. Et les gens grouillent autour de lui, des relations, en veux-tu, en voilà, un agenda surchargé. Et peut-être que ça ressemble un peu à ta vie, pour certains. Et de toute façon... Pour tous, avec le type de société dans lequel nous vivons, avec tous les gadgets qu'on a autour de nous, toute cette possibilité de communication, de toute façon, il y a tellement de choses à faire, tellement de choses auxquelles il faut répondre, hyper overbooké, surchargé. Oui, plus ou moins ça quand même. Soit dans les études, au niveau professionnel, famille, un peu comme Jésus, quoi. Ok, peut-être il a un agenda différent, mais tu sens bien que dans ta vie, c'est quand même... Heureusement que le Seigneur a permis qu'on doive dormir, sinon tu occuperais tes 24 heures à courir à gauche, à droite, ou à regarder des choses. Une société... qui va de priorité en priorité, d'activité en activité. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est cette petite conjonction, mais lui se retirait dans les déserts et il priait. Un peu de conjugaison, c'est un temps passé, c'est de l'aoriste en grec. Luc s'arrête, change de temps, mais le temps choisi est très intéressant parce que ce n'est pas simplement l'aoriste un temps passé, mais c'est un temps passé qui dure. Ça, c'est la spécificité de cette conjugaison-là en grec. Luc est en train de nous dire, et j'attire votre attention sur cela, qu'au beau milieu de toutes ces activités, de tous ces besoins, Jésus avait pris l'habitude de se retirer et de prier. C'était une habitude, c'était une priorité, c'était un mode de vie, c'était une culture. Ce texte-là, c'est un petit verset, moi j'aime bien les petits versets. Alors qu'il est hyper sollicité, Luc nous rappelle que la priorité, l'ambulance, le véhicule prioritaire dans la vie de Jésus, c'est de se retirer dans le désert et de... enrichir la relation avec le Père. Ça, c'est interpellant. Ça, c'est interpellant pour monsieur, madame, 2000 volts, comme toi et moi. Jésus allait dans les déserts. Il aimait les temps de désert pour nourrir cette relation, pour goûter au cœur du Père, pour goûter à l'amour du Père. C'était là qu'il avait la juste perspective des choses, pas dans le brouhaha, pas dans la course, pas dans la demande. La juste perspective des choses, c'était là dans le désert. C'est pour ça qu'il pourrait dire, ce que je vous dis, je l'ai entendu de mon père, je l'ai vu de mon père. Il était au-dessus de la mêlée quelque part. Il se retirait, c'était une habitude, c'était un mode de vie, les temps dans les déserts, pour goûter à cette tendresse, ce qu'il avait vécu depuis toujours, dont il avait besoin. Ce qui faisait violence dans la vie de Jésus, dans son agenda, ce qui faisait violence, c'était la relation avec son Père. Jésus a été ce que Jésus a été parce qu'il a été dans les déserts. Je pense que c'est profondément biblique cela. Et si tu regardes dans les évangiles, tu vois toute une série d'ondes de choc de cet agenda. Tu vois les pages un peu partout où tu vois Jésus privilégier la relation avec son Père. Les évangélistes ne cessent de nous dire, un certain jour il était là-bas, il priait, il était là-bas, il a passé la nuit dans la prière. Jésus a pu avoir la juste perspective, le bon timing, être ce qu'il était, parce qu'il a été dans les déserts, parce qu'il a donné à la relation avec son Père la première place. On voit ça partout dans les évangiles, la priorité de la relation au Père. Que de paraboles pour enseigner les 12 élèves. La foule, ne vous arrêtez pas de prier. Que d'enseignements, que d'événements où à chaque fois, il encourageait la symbiose avec le Père, le fait de synchroniser l'agenda avec le Père. Jusqu'à la fin de sa vie, il va être arrêté, Jean 17, un temps de prière, une prière extraordinaire. À Gethsémané, il va encore prendre le temps de leur dire « Attention les amis, attention, vous êtes bien disposés, vous allez remplir vos agendas de tellement de choses. Mais votre chair est faible, vous avez besoin d'aller dans les déserts. » Je sais qu'on sait tout ça. Peut-être certains prenaient des notes, ils disent « Ben non, ça va, j'ai déjà une pile. » Ok. Mais le fardeau sur mon cœur aujourd'hui, c'est que il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent dans ma vie. Il faut que les choses changent dans notre vie. Sinon, on n'ira pas beaucoup plus loin. On n'aura jamais la bonne perspective. Et c'est ça qu'il nous faut dans nos vies. Tellement de situations qui vont demander des choix, des décisions, des comportements particuliers. Et j'ai besoin de connaître la perspective de Dieu. Comment je vais l'entendre ? Dans le désert. Dans la relation avec lui. Et là, le désert n'est pas le symbole de l'épreuve, mais de l'intimité. Je prends un exemple encore. J'aurais pu prendre plein de textes où Jésus nous parle de la prière, dans ce moment sur la montagne. Il a tellement dit, c'était vraiment un pilier central de sa vie. Mais pour vous, mesdames, juste quelques mots, l'épisode de Marthe et Marie, un petit épisode dans Luc 11. Si on le retirait des évangiles, l'architecture ne souffrirait pas. Et pourtant, je pense que c'est une parole tellement forte pour nous. Marthe invite Marthe et Marie, et Jésus est là en train d'enseigner. Et Marie, au lieu d'aller cuisiner et de préparer, elle est là au pied de Jésus. Elle est dans une relation, elle est dans le désert. Elle est dans l'écoute. Et Marthe, elle fulmine en disant, mais ma sœur, quelle fainéante ! Au lieu de venir donner un coup de main, si elle voyait mon agenda, parce que le texte, le verbe dit même que Jésus va loger avec les copains. Donc, il y a vraiment du travail. Et elle va importuner. Jésus, pour lui dire, écoute, dis-lui de venir donner un coup de main. Et Jésus va dire une parole extrêmement forte pour nous montrer sa culture est la culture du royaume. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, comme nous. Mais il n'y en a qu'une seule qui est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part. Et on a besoin de réaliser dans la vie qu'il n'y a qu'une seule chose nécessaire. Mais nous, je ne sais pas ce qu'on s'est mis dans le crâne, ce que nos parents... Et on a comme un héritage en nous d'activisme. comme si on est ce que l'on fait. Mais c'est faux. La Bible dit, tu es ce que tu es par rapport à Dieu. Tu es ce qu'est ton intimité avec Dieu. Et parfois on dit, oh, mon caractère ne change pas, mon couple ne change pas. Parce que je ne me donne pas les moyens. Je ne suis pas là dans le désert, dans l'intimité, où il va me métamorphoser. Et Marthe doit entendre ça, et j'ai besoin d'entendre. Il n'y a qu'une seule chose nécessaire dans ma vie. Et dans toutes les langues, ce qui est nécessaire, c'est ce qui est indispensable, c'est prioritaire, c'est ce que j'ai vraiment besoin. Et Luc utilise 4 fois dans Luc et Actes ce mot. Je vous donne l'un ou l'autre exemple. Le cadet, quand il est parti, à un certain moment, il a manqué du nécessaire, et on comprend bien, il allait mourir, il n'avait plus rien. La pauvre veuve, elle a mis beaucoup plus que les riches, parce qu'ils ont mis leur superflu, elle a donné de son nécessaire. Il a renseigné la parabole du juge inique pour montrer qu'il est nécessaire de toujours prier. C'est indispensable. C'est ça qu'il dit à Marthe. Marthe, tu es en train de rater l'essentiel dans ta vie. C'est vrai qu'on va super bien manger, on va bien dormir. Mais ça passe après. Ça passe après. Ce que Jésus nous propose dans cet épisode, mais aussi dans ce que Luc nous dit de son habitude, c'est de révolutionner notre vision du temps. Et je sais que c'est un peu choquant. Il dit, mais Laurent, tu ne connais pas mon horaire, tout ce que je dois faire? Si. On est pris dans des activités chronophages, ça nous prend beaucoup de temps, mais Jésus vient, c'est Jésus qui a le droit de me dire, Laurent, Église, Mike, Isabelle, Rénaldine, pour chacun d'entre nous, il y a une seule chose nécessaire, et je t'attends dans le désert. Je veux l'intimité, j'ai un cœur pour toi, j'ai une passion pour toi. Moi, je peux te transformer, je peux te donner ce que tu n'as pas. Et pour l'Église en Ukraine aujourd'hui, il peut dire, moi j'ai une paix au-delà de ce que l'OTAN peut offrir, de ce que notre armée peut offrir. Mais il faut que tu viennes dans ma présence. Chez Jésus, c'était une culture. C'était vraiment une habitude. La relation avec le Père, c'est ça qui lui a donné la bonne perspective. Et je voudrais nous dire que on a besoin de changer. Jésus a le droit de nous dire, Jacques, je sais que la SNCB te demande beaucoup. Mais moi, j'ai la priorité. Moi, j'ai la priorité. Et moi, je veux ton cœur. Parce que je t'aime tellement. J'ai des choses à te dire. J'ai des choses que je veux transformer. Il y a des choses que je veux ajouter, que je vais métamorphoser. S'il te plaît, viens dans le désert. Viens auprès de moi. Il y a une seule chose nécessaire. Notre problème, quand on entend ça, c'est qu'on se dit... Et je sais que l'enjeu dans cette série, c'est que vous avez l'impression que Jésus est inatteignable. C'est un peu comme un super-héros, quoi. Ouais, Jésus. Mais moi, dans ma vie, ça ne sera jamais possible. Je voudrais redire quelque chose, que je ne vais pas le redire à chaque fois, mais quelque chose d'important pour qu'on puisse faire la synchronisation. Le ministère de Jésus, il a commencé lors de son baptême. L'Esprit a pu descendre sur lui. Et rempli de l'Esprit, il a agi. Il était une sorte de prototype, l'exemple. Il a agi avec l'Esprit de Dieu sur lui. Son ministère dépendait de cela. Si je lis bien les Écritures, à la conversion, le même Esprit vient sur nous. Il y a un dénominateur commun entre Jésus et nous, c'est l'humanité. L'Esprit ne s'est pas posé sur le Logos glorieux, mais sur l'être humain qui s'était fait chair et qui l'a rendu capable. C'est le même Esprit qui vient en nous. Tout ce qu'il a fait en Jésus, il peut le faire en nous, il veut le faire en nous. Le potentiel de Jésus venait de l'Esprit de Dieu. Notre potentiel, c'est le même, parce que le dénominateur commun, ce sur quoi l'Esprit travaille, c'est notre chair, c'est notre humanité. Il est venu Et à travers Jésus, nous pouvons voir ce qu'un être humain peut vivre. Ça veut dire que tout ce que nous allons découvrir sur Jésus est vraiment transposable. Il nous a libérés, tu l'as dit tout à l'heure, Jérôme, pour que nous puissions nous approcher, pour que toute la potentialité de Jésus, toutes ses compétences, tout son potentiel, ce soit effectif aussi. C'est ça le ministère du Saint-Esprit. C'est pourquoi, quand je vois la culture de la relation avec le Père, je ne dois pas me dire, ouais, pff, ça, c'est pas pour moi. Si Jésus l'a vécu, le rôle de l'Esprit, c'est que je puisse aussi le vivre. Sinon, c'est un conte de fées. Mais quand il est dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, ce n'est pas juste une affirmation théologique, c'est une affirmation quotidienne qui marque mon aujourd'hui, qui montre ce que je suis capable de faire avec le même esprit en moi. C'est donc possible. Je termine en nous posant la question, alors comment synchroniser ? Comment allons-nous synchroniser concrètement ? On est appelé à un genre de vie nouveau. Et ce n'est pas parce que je ne l'ai pas bien vécu ces derniers temps, ou peut-être parce que je ne l'ai pas encore vécu depuis le début de ma conversion, que je ne peux pas le vivre maintenant. Jésus a commencé son ministère à 30 ans. À 30 ans. On ne sait pas grand-chose de ce qui se passait auparavant. Et puis les choses ont démarré. Il y a des choses qui peuvent démarrer dans ma vie. La première chose qui doit vraiment bien se mettre en place, pour que le reste puisse se construire convenablement, durablement, c'est la culture de la présence du Père. C'est devenir des habitués du désert, habitués de l'intimité. Jésus ne veut pas les miettes de notre vie. Jésus ne veut pas les miettes. Bien sûr qu'il veut toute notre existence sur notre lieu de travail, une vie de communion. Mais même Jésus se retirait. Il était dans la présence du Père. On a besoin de nous décider. Il y a deux choses que ça va nous demander. Et je termine avec ça. Ça va d'abord nous demander du temps. Ouais, je veux être vrai avec vous. Connaître Dieu, goûter à Jésus, aller dans le désert. On n'y allait pas pour 10 minutes. Hein. Ça prenait du temps déjà d'y aller, d'y rester puis de revenir. La seule richesse que nous avons, c'est le temps. Et là, on est tous égaux. Les plus riches parmi nous n'ont pas 36 heures par jour. On a tous 24 heures. Et Seigneur te dit, donne-moi du temps. Si tu veux me connaître, écoutez, là où nous dépensons notre temps, nous montrons ce que nous aimons, n'est-ce pas ? Peut-être que le Seigneur peut être jaloux de certaines de nos activités. Je peux regarder un match de foot de 90 minutes, plus la mi-temps, puis les commentaires d'après-match, ça fait vite 2 heures. Hein. Et tu n'aurais pas 2 heures pour aller dans le désert. C'est bien, on est là, on montre que c'est notre priorité, c'est bien. Il faut du temps. Et ça, c'est un choix qui n'est pas évident. Parce que demain, si tu ne fais pas attention, il y a comme un programme qui se lance par défaut. Tu te lèves et tu es déjà dans des tas d'activités. Alors que tu es invité dans le désert, dans la pièce reculée. C'est faux de croire que Jésus était toujours au four et au moulin. Dans les évangiles, qu'est-ce qu'on voit ? Jésus se retire et de temps en temps, il fait des sorties gagnantes. Nous, on s'imagine qu'il est toujours... Non, c'est une mauvaise lecture, ça. Jésus dans l'intimité du Père. Et puis il sort. Et puis il revient. Il y a ce va-et-vient perpétuel. C'est pas de la religion, c'est d'aller toucher Jésus. Et on va apprendre. Peut-être tu te sens un peu mal à l'aise au départ, dans le désert, un peu gauche, mais il est là. C'est dans Osée, il dit, j'ai attiré mon peuple dans le désert. J'ai attiré ma bien-aimée. Ça va demander du temps. Aujourd'hui, il faut qu'on prenne des décisions. faut qu'on soit radical. Je prends cet exemple parce que la vie des Ukrainiens pour l'instant est en train d'être changée, hein, radicalement. Mais le fait d'avoir reçu Dieu en nous, d'avoir le Christ en nous, est-ce que ça ne doit pas changer plus radicalement encore nos vies? Un moment avec Jésus, ça vaut mieux que tout au monde. On l'a oublié, on s'est habitué, on a banalisé ça. Jésus disait, il y a plus que Salomon ici. Plus tard, vous allez dire, oh, c'était bien. On était avec lui. On peut le vivre. Ça demande du temps. Ça demande une décision. Une radicalité. Ça demande du temps et de la confiance. Et de l'obéissance. Et de l'obéissance. Du temps et de l'obéissance. Ça, c'est les ingrédients de base. Du temps pour nourrir cette discipline, de la solitude, de la lecture, de la prière, et l'obéissance à ce qu'il va nous dire. Parce que je vais lui faire confiance, je vais avoir la juste perspective, je vais obéir à ce qu'il me demande, à son appel. Jésus pouvait dire, Père, j'ai fait toutes tes œuvres. À la fin de sa vie, j'ai accompli toutes tes œuvres. On doit devenir un peuple qui entend et qui rentre dans ce que Dieu a préparé. On a besoin de synchroniser nos agendas. Sinon, on va traîner ça comme une maladie chronique. Et moi, aujourd'hui, pour l'Église, j'ai plus envie de ça. Parce qu'on ne pourra pas aller beaucoup plus loin avec un peuple qui n'en fait qu'à sa tête. Parce que si ce n'est pas le Christ, c'est ma chair, c'est ma propre volonté. Et on n'a pas besoin dans l'Église de grandes bouches. Que de dégâts dans les Églises parce que on n'a pas été dans les déserts. Des mauvais choix. Courrier de notre association, les anciens ont dû limoger un pasteur parce que ça n'allait pas du tout. Où était le discernement? C'était connu. Dans le désert, il y a beaucoup pour nous. Il y a des révélations nouvelles, il y a un courage nouveau, il y a une fraîcheur nouvelle. Qu'est-ce que tu fais toujours dans la cuisine avec Marthe? Il faudra y aller à un certain moment. Hein, je ne vais pas ouvrir un monastère. Mais on voit la culture de Jésus. Hein. Les gens venaient, mais lui se retirait. Levons-nous ensemble. On va prier. Peut-être les musiciens, si vous pouvez revenir. Mais je ne voudrais pas terminer le culte, terminer ce message, comme d'habitude. Je voudrais vraiment qu'on se décide. Jésus n'a pas eu peur de lancer des appels terribles. Pierre, Jean, arrêtez votre boulot, suivez-moi. Il ne te demandera peut-être pas ce matin de quitter ton boulot, mais il va certainement te demander d'arrêter certaines choses pour aller dans le désert, pour nourrir l'intimité, sinon on n'y arrivera pas. Et Pierre et Jean ont dû se décider. Hein. D'ailleurs, certains ne l'ont pas fait. Qu'est-ce que je suis prêt à faire pour rentrer dans la culture de l'intimité avec le Père, pour goûter à son cœur, à sa tendresse, à son amour? Tu sais, tout ce que tu n'as pas reçu quand tu étais peut-être plus jeune, il n'y a qu'auprès de lui que tu peux le recevoir. La réponse aux questions que tu te poses maintenant, il n'y a que auprès de lui, la force nécessaire pour les défis qui sont devant toi, c'est auprès de lui. Ça doit être notre culture, notre priorité, notre violence. pas un homme qui le dit. C'est l'époux, c'est la tête de l'Église, c'est Jésus. Ce matin, nous avons besoin de prendre une décision et de nous y tenir, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation géopolitique, quelles que soient les épidémies, il y a plus pour nous auprès de Jésus. C'est ça qui va faire la différence. On disait des apôtres, on voit que vous avez été avec lui. Vous êtes la même bande que lui. À Antioche, on les appelait chrétiens parce qu'ils étaient des petits Christ. Notre société n'a pas besoin de l'Église. Ils ont besoin d'hommes et de femmes qui fréquentent Jésus, qui sont impactés par Jésus, qui sentent Jésus, qui peuvent parler de la part de Jésus, qui ont le même caractère, le même potentiel. Vous allez demander des choses, disait Jésus, dans la prière, et je vous les donnerai. Et vous allez faire des œuvres plus grandes. C'est cette Église-là qui doit se lever aujourd'hui. C'est ça dont le monde a besoin, dans cette dernière phase. Je sais que ce n'est pas nouveau, mais ma décision peut être nouvelle et elle peut changer toute mon existence. Prends un engagement ce matin et n'y reviens pas. Que tu sois fatigué ou pas, qu'importe. Prends une décision par rapport à la Bible et va dans le désert tous les jours. Il t'attend. Il y a de l'eau fraîche pour toi. Il y a un pain. Et un bain de vie pour toi. Seigneur, attire-nous à toi. Attire-nous à toi, Seigneur. Aide-nous à vaincre la peur. Aide-nous à vaincre la paresse, Seigneur. Cet engluement, Seigneur. Ce mode de vie que tu veux changer. Tu veux tout partager avec nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous.